soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h18, il va nous plonger dans l'univers secret des trafiquants de drogue. Il publie un livre absolument passionnant sur l'ampleur du phénomène chez nous en France, assez inquiétant d'ailleurs. Bonsoir Frédéric Ploquin.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. Vous êtes journaliste, grand spécialiste du banditisme et vous publiez donc Les narcos français brisent l'omerta aux éditions Albin Michel. C'est absolument passionnant, je le disais. C'est un livre dans lequel vous donnez la parole aux trafiquants, aux petits d'ailleurs comme aux gros, y compris des trafiquants d'ampleur internationale, mais aussi à des policiers qui les combattent. On va en parler dans le détail. D'abord, comment est-ce que vous avez fait pour qu'ils vous accordent cette confiance-là?
C'est un travail de longue haleine. Moi, je m'intéresse au crime, aux voyous et aux policiers depuis au moins une trentaine d'années. Donc à partir de là, vous savez comment ça se passe dans le journalisme, on noue des contacts, on crée des liens de confiance.
C'est la confiance, oui, c'est ça.
Que ce soit d'ailleurs d'un côté ou de l'autre, parce que c'est la même, à peu près aussi compliqué avec les fonctionnaires de police.
Oui.
Que avec les voyous. Pour ce qui est des voyous et des narcotrafiquants, en l'occurrence, c'est vrai que comme je travaille depuis longtemps sur le sujet, j'avais rencontré déjà les pionniers. On va dire, la France peut se targuer d'avoir inventé les routes de la drogue.
Oui.
Ça, personne ne le sait vraiment. Mais avec la French Connection dans les années 70-80, les voyous français, les trafiquants français ont inventé des routes qui allaient de l'Indochine à Marseille, et puis de Marseille à l'Amérique du Sud, et puis de l'Amérique du Sud à l'Amérique du Nord. Donc ils ont créé ces routes de la drogue. Il y a vraiment un côté pionnier. Mais ça, c'était il y a un demi-siècle.
Oui.
Et on ne se rend pas compte à quel point la drogue, entre-temps, en 50 ans, s'est complètement installée dans notre territoire.
Oui.
C'est presque, pour ainsi dire, banalisé. Maintenant, vous trouvez de la drogue absolument dans le moindre village de France.
Ce qui est fou dans le livre, on va en parler en détail, c'est qu'on pensait, quand on suit ça de loin, que c'était les Italiens, les Siciliens qui tenaient marché des narcotrafiquants chez nous en Europe. On se rend compte que en France, c'est également le cas. Une question comme ça, en passant, vous qui travaillez sur le sujet depuis une trentaine d'années, on sent dans le bouquin, quand on lit les entretiens, les récits que vous faites des dealers, les petits et les gros, que ça fait toujours rêver de la vie de voyou.
C'est ça, c'est peut-être un problème, c'est l'une des grandes hypocrisies de la drogue. C'est d'un côté, la drogue nourrit des grandes fictions, des films sympathiques, où on a des figures de bandits qui ont accès aux femmes, à l'alcool, à tout ce que vous voulez. D'un côté, il y a ça qui est mis en avant. Qui est mis sur le devant de la scène. Et puis de l'autre côté, il y a le réel que moi j'ai voulu aller chercher. Et quand vous approchez la nouvelle génération, vous vous rendez compte à quel point, par rapport aux bons vieux voyous d'autrefois qui ont quand même inventé des tas de choses, les jeunes se sont hyper professionnalisés. Ça peut paraître troublant et choquant, mais ils sont assez pros.
Oui,
pourquoi ?
Parce que dans son rôle, il y a une forme de hiérarchie. En revanche, c'est assez déstructuré quand même. C'est pas vertical comme les Italiens que j'évoquais
absolument
à l'instant.
Il y a pas de mafia en France.
Il y a pas de mafia, voilà.
Il y a pas de mafia. Il y a plutôt des centaines et des centaines de points de vente, des centaines de structures avec des gros fournisseurs. C'est un peu. En fait, ils ont copié l'économie réelle, c'est-à-dire qu'il y a des gros fournisseurs qui importent à la tonne, qui répartissent sur le territoire. Donc les plus puissants, quelque part, d'ailleurs, ce sont probablement les transporteurs qui, eux, gèrent. C'est un peu comme pour les supermarchés, vous savez, ceux qui acheminent, ceux qui, finalement, au bout du compte, sont plus puissants que les producteurs eux-mêmes.
En revanche,
les producteurs eux-mêmes, attendez, ils font pousser, entre guillemets, des orties, que ce soit la cocaïne ou le cannabis au Maroc. Sur place, sur pied, ça vaut rien. Il n'y a pas beaucoup d'entretien, il n'y a pas beaucoup d'investissement.
Ça n'est pas hiérarchisé, ça n'est pas structuré comme d'autres mafias ailleurs dans le monde. En revanche, c'est normé et c'est codé. Vous dites par exemple, des vendeurs d'à peine 15 ans peuvent gagner jusqu'à 700 euros par semaine pour du cannabis. Ça monte pour la cocaïne à 550 euros par jour. Et vous commencez, page 23, le livre, avec le récit de Youssef. Il a 39 ans, il est trafiquant de cannabis sur le semi-gros et le gros. Ça représente quoi comme quantité, le semi-gros et le gros?
Il est entre le 500 grammes, 1 kilo, de 10 kilos, 100 kilos, jusqu'à 100 kilos. Quoi.
Oui.
Et le gros, c'est la tonne.
Et vous dites qu'il distribue en région parisienne. Et il dit ceci: un mec qui fait le guet toute la journée en fumant du cannabis avec son petit scooter de merde touche 100 euros, soit 3000 euros par mois, sans impôts. Qui gagne ça? Mes lieutenants, qui vendaient pour moi, dit-il, avaient tous de quoi payer leur loyer et s'acheter une voiture. Ils m'adoraient, en somme. C'est un combat perdu d'avance.
D'une certaine manière, à les entendre, de toute façon, ils ont gagné la bataille. Ils se sont imposés. Ils ont conquis le territoire. D'ailleurs, sinon, ils ne me parleraient pas de manière. Enfin, ils sont sur deux. D'une certaine façon, ils sont sur deux, ils s'affichent, etc. Mais le problème, c'est que quand vous gagnez 3000 euros à 16-17 ans, quel va être votre rapport ensuite au travail, par exemple? Donc, ce que je veux dire, c'est que la drogue en soi, okay, c'est bien gentil, des jeunes qui fument leurs petits joints dans leur coin, mais ça génère de la corruption, ça corrompt sur toute la planète, ça corrompt notre police, ça corrompt notre gendarmerie.
Ça corrompt notre police, dites-vous.
Ça corrompt notre police, exactement.
Notre police peut être corrompue par des trafiquants.
Mais il y a des affaires que je pointe là dans le livre régulière, si vous voulez. Notamment, il y a eu plusieurs affaires qui ont concerné des policiers qui sont en première ligne dans le cadre des BAC, les brigades anticriminalité. Ils vont tous les jours au boulot, tous les matins ils se lèvent, ils pourchassent en gros les mêmes petits trafiquants, les mêmes dealers, ils les voient, ils les arrêtent, ils les retrouvent parce qu'ils sont mineurs. Au bout d'un moment, il y en a quelques-uns qui flanchent. Les policiers ont beau être solides et avoir la foi dans leur métier, il y en a un certain nombre, on en a vu à Marseille, on en a vu en banlieue parisienne, qui flanchent et qui à un moment donné, au lieu de confisquer la barrette de shit et de la détruire, bah ils vont la garder pour eux. Et puis après ils vont garder quelques petits billets de banque. Donc ça corrompt sur son passage.
Ce sont des cas isolés quand même.
Ce sont des cas isolés, mais la puissance de la drogue, de l'argent de la drogue, est telle qu'il y a un danger. Un danger, mais il y a aussi des douaniers, il y a aussi des dockers, il y a aussi. Ce que je veux dire, c'est que. Et puis il y a des pays du monde, en Amérique du Sud ou en Afrique de l'Ouest, où la drogue corrompt jusqu'au sommet de l'État. Donc c'est aussi ça, c'est socialement, c'est quand même un danger.
Vous allez assez loin dans le livre. Hein. Vous donnez la parole, par exemple, à Serge Costello, concernant le 93, ancien commissaire de police, qui qualifie le département de narco-département. Sur quoi se base-t-il pour dire ça? Narco-département, c'est quand même
c'est lourd, c'est très lourd. Il y a peut-être un petit côté provocateur dans la bouche de cet ancien commissaire à la retraite, parce qu'il est à la retraite, qu'il peut parler librement, d'ailleurs. Mais du coup, effectivement, ce qu'il a constaté sur le terrain, c'est que l'impact économique de l'argent généré par le trafic dans un département comme le 93 est tel que ça voisine à peu près, ça finit par faire de l'ombre à l'économie réelle et officielle.
Oui.
C'est-à-dire l'économie clandestine, à un moment donné, et c'est là où on parle de narco-département. Ce qui l'a troublé, lui, ce policier, et moi je l'ai constaté aussi, c'est à partir du moment où on a des élus locaux qui, dans leur commune, vont s'appuyer, recruter pour faire campagne et peut-être même pour donner des places à la mairie sur des trafiquants de drogue.
Alors,
et ça, on l'a vu à Marseille, on l'a vu en Seine-Saint-Denis, je ne l'invente pas, on l'a vu à Bagnolet, on l'a vu à Marseille. Là, on peut parler de narco-département parce que la politique et le trafic se mêlent et s'imbriquent.
Avec les trafiquants et l'argent de la drogue. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a tout un volet de votre livre qui revient sur la capacité des dealers à trouver des filons pour blanchir l'argent. Même d'ailleurs, les petits dealers, ils investissent, dites-vous, dans des kebabs, des boîtes de VTC, des petits commerces ou des terres agricoles au Maghreb. C'est si facile que ça de blanchir de l'argent?
Si vous avez la chance d'avoir un bout de votre famille dans votre pays d'origine, je pense à l'Algérie, au Maroc, ou au Sénégal ou au Mali, disons qu'il y a un avantage, c'est que la police française sera bien en peine de confisquer vos biens si d'aventure l'idée la prenait. Donc déjà, si vous êtes un peu malin, vous placez une partie de vos économies là-bas sur place. Mais en même temps, sur place dans le territoire en France, vous avez besoin d'une petite vitrine quand même, petite façade, et puis d'un petit, un petit business qui permettrait de légaliser, de faire émerger cet argent pour pouvoir l'utiliser. Parce que c'est bien beau d'être riche, mais si vous ne pouvez pas l'utiliser...
Vous racontez d'ailleurs un épisode qui va beaucoup plus loin et qui est assez vertigineux de ce point de vue-là, dont on avait déjà entendu parler. Vous rappelez que, notamment lors de la crise de 2008, les banques qui sont à l'époque en manque de liquidité, avec les faillites que l'on sait, ont fait rentrer en masse de l'argent du trafic, notamment en Espagne. Des sommes colossales.
Si vous voulez, le crime adore la faiblesse. Le crime saute sur tous les points faibles. Le crime adore les territoires en difficulté, et les pays en difficulté, les banques en difficulté. Pourquoi? Parce que dans ces zones-là, sur ces territoires et ces établissements bancaires, à un moment donné, tout simplement, il suffit de fermer les yeux. À un moment donné, vous avez quelqu'un qui vous amène un million en espèces. Bon, vous lui demandez d'où ça vient, il peut vous raconter ce qu'il veut, n'importe quoi. Il peut vous dire qu'il a fraudé le fisc et que c'est pas très grave, ce qu'il peut inventer. Mais toujours est-il que dans les périodes de difficultés, de crise sociale, économique, effectivement, cet argent appâte notamment les banques.
Et ce qui est fou pour terminer, Frédéric Ploquin, c'est la capacité aujourd'hui, ça raconte aussi le monde qui est mondialisé, internationalisé, un petit dealer de cité est en capacité d'aller rencontrer un ponte du trafic international en Colombie et de traiter quasiment en direct avec lui.
Longtemps, ça a été l'apanage, ce genre de contact, c'était le carnet d'adresse des cambouilleux français qui importaient, qui parlaient l'espagnol, ils l'avaient appris parce qu'à l'époque, ils étaient allés se réfugier sous Franco, ils étaient partis en Amérique latine.
Et puis on allait pas en Colombie comme ça.
Et ils étaient allés voir Pablo Escobar en Colombie, qui les avait bien reçus parce que c'était des voyous comme lui, quoi. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que ces 20 dernières années, en prison, la plupart du temps en prison, les jeunes caïds ont noué des contacts avec des Colombiens, avec des Mexicains, avec des Brésiliens. Et bon, en prison, on échange ses numéros de téléphone, ils se retrouvent dans la sortie. Et là, il y a des affaires qui commencent à fonctionner. Et donc, ils ont établi des lignes directes entre... pas Blois et Bogota, et entre la Seine-Saint-Denis et Bogota, des lignes directes qu'eux-mêmes ont cultivées. Ils n'ont plus eu besoin des grands voyous français.
Voilà, lisez-le si tout cela vous intéresse. Ça s'appelle « Les narcos français brisent l'Omerta ». C'est aux éditions Albin Michel avec Frédéric Ploquin. Donc, et c'est absolument passionnant. Il y a plein de choses dedans, plein d'infos, plein d'anecdotes.
C'est beaucoup des policiers. Il faut le dire quand même.
Ils font un boulot admirable.
Là, on a parlé de la corruption, mais la plupart des policiers font un boulot absolument incroyable. Et tous les jours, ils y retournent. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens qui retourneraient de cette façon-là aussi régulière.
Merci Frédéric Ploquin, merci d'avoir été notre invité ce soir dans Europe Soir. Europe 1, Julien Buchet.